Donc je suis avec Olivier Larrey, bonjour.
Bonjour.
Donc vous exposez à Photobrac de la taïga à la toundra. Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu ce projet ?
Alors c'est un projet sur lequel j'ai compilé des images réalisées ces dernières années dans trois régions du monde. La Finlande, donc un environnement très forestier, l'Islande et le Spitzberg, où là on va avoir, donc comme en Islande, des zones de toundra et jusqu'aux glaces du Haut-Arctique. Mon idée c'était d'avoir une approche noir et blanc puisque c'est la façon de photographier que je préfère et d'illustrer, de mettre en avant les animaux les plus charismatiques de ces régions nordiques, donc les ours, les loups, les gloutons, les chouettes ou les renards polaires.
Alors justement, pourquoi un noir et blanc ?
Alors ça c'est une envie qui m'est venue depuis la plus tendre enfance. Quand j'étais enfant, mon père faisait beaucoup de photos et ce qui m'a le plus touché, c'est ces images en noir et blanc. Et j'ai toujours gardé ça au fond de moi. J'ai commencé à faire de la photo quand j'avais à peu près 13 ans, mais j'ai attendu d'avoir à peu près 35 ans pour me mettre à faire du noir et blanc. Et ça a tout de suite fait une résonance plus profonde de moi. J'ai vraiment senti que c'était une façon de photographier qui me correspondait. Et aujourd'hui, je fais 90% de mes images en noir et blanc.
Et alors, comment vous travaillez pour prendre en photo ces animaux et cette faune sauvage ?
Alors, de différentes manières. Alors, j'ai fait beaucoup d'affûts, c'est-à-dire d'être à un poste fixe et d'attendre le passage des animaux. Beaucoup de déplacements en hiver aussi dans la neige, par exemple en Islande ou en bateau. Au Spitzberg. Au Spitzberg, je travaille beaucoup en bateau, donc c'est beaucoup un repérage aux jumelles. Et puis après, si je trouve quelque chose, je vais m'approcher avec par exemple un zodiaque et finir l'approche à terre pour photographier les animaux. Moi, ce que j'aime bien dans mon travail, c'est d'avoir une bonne connaissance des animaux. Mon premier outil, c'est les jumelles, c'est pas l'appareil photo. L'appareil photo, c'est la finalité. Si les conditions sont bonnes, on prend des photos. Mais moi, ce que j'aime d'abord, c'est trouver les animaux et puis comprendre pourquoi ils sont là, quel est leur mode de vie. Parfaire à chaque fois que je vais dans la nature mes connaissances sur les animaux et après de les mettre en valeur pour les faire connaître, pour échanger sur le sujet, créer des émotions à travers ces images auprès du public qui vient regarder les images.
Et justement, pour acquérir ces connaissances-là, vous avez fait comment ? Vous êtes formé sur le terrain ? Vous avez suivi des formations ?
Alors quand j'étais adolescent, j'ai côtoyé les réseaux naturalistes et j'ai appris beaucoup comme ça en fait. D'abord les oiseaux, les oiseaux de la région. Moi je suis de la région de Montpellier, donc mes terrains de jeu c'était jusqu'à l'Aubrac, de la façade méditerranéenne jusqu'à l'Aubrac, les Cévennes. C'était vraiment là que j'ai appris à reconnaître et observer les oiseaux. Et la photo est venue assez vite aussi. C'était l'idée de ramener quelque chose du terrain. Mais ça a toujours été d'abord le plaisir de voir les espèces. Et c'est vrai que le niveau de connaissance, il a été possible, l'amélioration du niveau de connaissance, il a été possible grâce à plein de naturalistes qui ont passé du temps à m'expliquer comment reconnaître les oiseaux, comment connaître les chants des oiseaux. Et puis après, pareil pour la photographie, comment on fait un affût, on apprend avec des gens qui savent au départ et puis un jour on vole de ses propres ailes.
Et alors, toujours par rapport à la couleur, il y a le blanc qui ressort beaucoup, aussi parce que c'est contrasté avec le noir, et ça donne une sensation vraiment de froid, de la neige aussi, des tempêtes de neige. C'est ce que vous avez voulu retranscrire aussi avec le noir et blanc.
Oui, parce que en fait, je me climatise, on va dire, grâce à mes voyages. C'est-à-dire que je vis dans des régions chaudes, j'habite à côté de la mer Méditerranée. Les hivers, justement, ils sont peu marqués, et c'est quelque chose d'un peu frustrant pour moi. Et j'aime énormément les pays où on sent vraiment le passage des saisons, les transitions. Et c'est pour ça que chaque année, c'est une des raisons qui fait que je vais chaque année dans les pays du Nord où les hivers sont très longs. Je vais préférentiellement dans ces régions-là en hiver quand c'est tout blanc. Et en plus, j'essaie de travailler sur des matériaux qui font bien ressortir la neige. Et là, par exemple, pour ces expositions, j'ai un papier coton qui a un papier texturé qui va m'aider à faire ressortir la texture de la neige.
Et alors, quel est pour vous le sens d'être exposé ici à Photobrac, qui est dans un territoire rural et où le thème cette année est Terre de vie ?
Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à chaque fois, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est de reconnecter les gens à la nature. L'homme a pris énormément de place sur le territoire des animaux. On reproche aux animaux des fois de venir d'être intrusifs dans la vie des hommes, mais il ne faut pas oublier qu'on leur a pris l'essentiel de leur territoire. Et je me dis qu'avec le travail qu'on fait de photographie, on peut échanger sur des sujets naturalistes, des questions importantes sur la place des grands prédateurs, par exemple, qui est clé. Et par des émotions, petit à petit, essayer de faire un petit peu changer la perception qu'on a de ces animaux pour qu'on puisse coexister. Et je ne vois pas d'autres... moi, c'est mon cheval de bataille, c'est mon envie la plus profonde, c'est d'arriver à trouver le moyen de coexister avec ces animaux. Parce que l'homme prend beaucoup de place, mais il ne doit pas prendre toute la place.
Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous aimez travailler à un collectif aussi. Par exemple, vous avez exposé avec Yves Fagnard qui fait des aquarelles. Vos regards sont complémentaires ?
Oui, sont complémentaires. Et j'aime bien voir un petit peu comment, à partir d'une scène qu'on a vécue en commun, ce que chacun va ressortir de la situation. Et par exemple, Yves, qui est aquarelliste, il peut travailler dans des conditions de lumière très très faibles et faire une magnifique aquarelle entre chien et loup, alors que moi, je commence à être très limité pour faire de la prise de vue. Par contre, par exemple, quand il y a une grosse averse de neige, lui, il ne peut pas peindre. Avec sa technique d'aquarelle, faire ressortir une averse de neige, c'est impossible. Puis des fois, on est dans un terrain où tous les deux peuvent exprimer quelque chose, et c'est rigolo de voir qu'est-ce qui a attiré le plus l'attention de chacun de nous deux. On s'est amusé dans certains de nos projets de livres de mettre justement une scène, le regard du photographe, le regard de l'aquarelliste. Et ça, j'aime bien.
Et là, dans ce lieu, dans cette grange, vous exposez avec votre frère, c'est ça ?
Oui, avec mon frère, donc Frédéric, qui lui présente un travail sur la panthère des neiges. Il a passé 8 mois au Tibet de 2017 à 2020 et il a eu l'occasion d'observer de très nombreuses fois la panthère des neiges. J'ai eu l'occasion d'y aller 2 fois avec lui. Et donc, il présente un travail complet sur cette espèce et les animaux associés du plateau tibétain.
Et alors, je vais vous demander si vous êtes d'accord de décrire une photo de votre frère, celle que vous choisissez.
Alors, je dirais que dans cette exposition, moi, ce que je trouve le plus frappant, c'est les photos où on doit trouver la panthère. Parce que finalement, 80% du travail qu'on doit faire au Tibet, c'est de trouver la panthère des neiges. Et elle a un mimétisme incroyable. Et donc moi, si je devais retenir des images de son travail, c'est celle où on ne voit pas la panthère du premier coup d'œil. Parce que c'est comme ça qu'on peut le mieux retranscrire notre terrain. Quand on la voit très très bien sur l'image, ça ne reflète pas une journée typique au Tibet. Une journée typique au Tibet, c'est un paysage magnifique. On entend des oiseaux, on voit des vautours dans le ciel, mais il faut chercher beaucoup. Et quand on travaille sur la panthère des neiges, il faut passer beaucoup de temps aux jumelles. Et à un moment donné... on devine une silhouette, on voit un déplacement et elle est là. Elle est tout près des fois. Et en fait, si elle bouge pas, on peut passer à côté sans s'en rendre compte. Ça, c'est assez incroyable.
Et vous l'avez photographié aussi ?
Alors moi, je l'ai filmé. J'ai pas fait de photos ou quasiment pas de panthères. J'ai participé au projet de mon frère dans le cadre de projets de film. Et donc, moi, j'ai eu la chance de les filmer. C'était déjà formidable.
Pour conclure, est-ce que vous avez déjà d'autres projets ? Quelque chose sur laquelle vous travaillez en ce moment ?
Alors, je vais continuer à travailler sur mon travail en noir et blanc de manière transversale. J'aime bien un peu mélanger différents projets et de sortir des séries homogènes en noir et blanc. J'ai pas de projet précis parce que je viens de terminer un gros projet sur les loups, mais je vais continuer à travailler sur des projets de films, c'est sûr, mais c'est vraiment dans des phases de réflexion en ce moment, mes projets.
Est-ce qu'on peut vous retrouver sur le net, sur les réseaux ?
Oui. Alors, j'ai un site internet qui s'appelle olivierlaret.org. Je suis sur les réseaux Facebook, Instagram, sur lequel je publie mes actualités. Et mon frère fait la même chose.
Super, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Donc, je suis avec Frédéric Laret, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous exposez une série sur la panthère des neiges, est-ce que vous pourriez nous en parler ?
Oui, avec grand plaisir. Donc, c'est un reportage qui a été fait en fait sur à peu près 8 mois de terrain, donc sur le plateau tibétain. Et à l'origine, je venais faire un sujet sur la faune de ce plateau. Et puis, on m'a suggéré d'essayer quand même de montrer une des espèces les plus emblématiques, mais aussi les plus dures à voir, qui est la panthère des neiges. Et donc, c'était un chouette défi à relever. Et par chance, j'ai réussi assez rapidement à trouver une panthère à la longue vue, de très très loin en haut d'une montagne. Mais de là à faire une photo, c'était autre chose. Et c'est devenu possible parce que, au gré de mes repérages, en fait, j'ai rencontré une famille de Tibétains qui sont des bergers et qui m'ont accueilli chez eux. Et il se trouve que ce berger était un spécialiste de la panthère des neiges, donc c'était une rencontre très heureuse. On a travaillé 6 mois ensemble et je me suis aperçu qu'en fait, autour de chez lui, dans une zone qui était très bien préservée, il n'y avait pas de braconnage, pas de chasse depuis 25 ans, les animaux étaient peu farouches. Donc on arrivait à les approcher, il y avait des faibles distances de fuite et on a localisé 25 panthères différentes autour de chez lui, dont des familles que je retrouvais d'un voyage à l'autre. Je restais une période d'un mois, puis je rentrais chez moi pour m'occuper de ma famille aussi. Et donc, d'un voyage à l'autre, je voyais une femelle, par exemple, panthère avec ses petits. Et quelques mois après, ces mêmes petits avaient grandi. Et donc, ça permettait de voir des étapes différentes de leur croissance. Donc voilà, c'était ce contexte-là de collaboration avec des bergers qui a permis, en fait, de connaître ces animaux, de savoir où les chercher, comment les repérer, et puis je me suis aperçu qu'ils partageaient l'espace avec les bergers aussi, donc les panthères étaient habituées à voir des humains en haut des montagnes.
Et qu'est-ce qui vous fascine chez cet animal ?
Alors ce qui est assez étonnant chez cet animal, en plus de sa beauté, puisque c'est un animal qui est très très esthétique, qui a une prestance. Les félins sont vraiment, ils ont des proportions, ils ont une présence aussi dans le regard qui est assez saisissante. Mais ce qui est particulier, c'est le fait que ces animaux, on ne les trouve qu'en haute montagne, entre 2005 et jusqu'à 5500 mètres d'altitude. Par rapport aux autres prédateurs, l'ours, le léopard commun, le loup, etc., on va les trouver du bord de mer jusqu'aux hautes montagnes. Mais ces panthères, elles sont vraiment très adaptées aux hautes montagnes. Et du coup, ça leur donne un peu ce charme de quelque part des cimes, des montagnes enneigées. Et elles ont une adaptation avec une très longue queue qui leur sert de balancier pour grimper dans les falaises, courir dans les pentes pour chasser et aussi se servir d'écharpe. Elles s'enroulent dedans pour dormir. Et donc elles ont, une belle fourrure, elles sont magnifiques. Donc c'est un plaisir de les voir aussi adaptées à cet environnement particulier.
Alors pour revenir un petit peu à l'arrière, qu'est-ce qui vous a amené à faire de la photographie ?
Alors c'est une passion qui remonte à l'enfance, puisque j'ai eu la chance, mon frère expose juste à côté, on est dans la même grange, et notre père faisait de la photo amateur. Et on aimait bien ses photos et il nous a laissé jouer avec son appareil, approcher des marmottes dans les Alpes, des chamois. Et c'est devenu très rapidement une passion. Et à l'âge de 13 ans, je voulais être photographe animalier. Donc c'était déjà très ancré le goût des voyages, le goût du reportage, de la photo et de la nature. On observait les oiseaux du jardin, les oiseaux de la campagne, etc. Et donc, c'est devenu vraiment un but. Mais ce n'est pas un métier facile et il a fallu trouver sa voie comme un peu chacun. Il n'y a pas d'école de photographie animalière. Il y a une école du film animalier en France. Donc c'est un peu autodidacte. Et ce parcours, je l'ai fait avec un copain qu'on a rencontré quand on était tout jeune, qui travaille toujours avec nous, Thomas. Et puis, on s'est soutenus avec mon frère aussi. Voilà.
Et alors, le thème de Photobrac cette année, c'est Terre de vie. Quel est le rapport de vos photos avec ce thème-là ?
Terre de vie, j'imagine que c'est une thématique qui est assez large. J'ai pas creusé la question pour être honnête, mais disons que notre motivation quand on s'intéresse à la nature, c'est d'espérer qu'elle se porte bien et d'explorer aussi cette terre qui est une source de contemplation inépuisable. Et puis quand j'arrive dans un milieu qui est l'Himalaya, le haut plateau tibétain, j'ai envie de comprendre comment fonctionne l'écosystème et comment les gens vont pouvoir cohabiter, puisqu'aujourd'hui il y a tellement d'humains et tellement peu de faune sauvage en effectif qu'on a envie de trouver les clés de la compréhension. Ce sujet, c'était vraiment ça, des bergers qui acceptent de vivre avec la faune et des prédateurs et un peu de prédation sur leurs propres troupeaux. Et donc de comprendre ça donne un message très positif où on voit que le virage a été pris à 25 ans, plus de chasse, plus de braconnage sur ce secteur-là. Ça permet de reconstituer les populations animales tout en essayant de chercher à vivre ensemble, partager l'espace, le pâturage, etc. Et du coup, de recréer les bonnes conditions d'une vie sur Terre, quoi, alors qu'elle a tendance à s'appauvrir, et pour nos propres difficultés aussi. Un milieu peu fonctionnel, où il y a peu d'animaux, sera beaucoup moins riche, même si on domestique beaucoup, puisqu'il va s'épuiser rapidement. Et donc, de comprendre le rôle de chaque espèce, la nôtre y compris, ça permet d'envisager un avenir plus intéressant. Et j'ai vu des Tibétains souriants, heureux, qui même me montraient des panthères, pas des gens qui étaient en lutte. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était touchant, puisque quelque part, on a toute une part de romantisme en nous. Quand on fait de la photo, on a envie de chercher des images qu'on sélectionne. C'est un angle. On cache des choses, on en montre d'autres, on cadre. Donc le piège, c'est de montrer que du trop beau parmi des choses qu'on n'a pas envie de montrer, parce qu'elles ne sont pas aussi belles qu'on le souhaiterait. Et donc là, l'idée, c'était d'essayer de ne pas cacher les difficultés dans les récits de ce livre, mais d'essayer de chercher une histoire, on va dire, actuelle et positive sur une terre vivante.
Alors justement, vous avez dit, vous exposez avec votre frère. Quel est le dialogue entre vos deux projets ?
Ce qui est sympa, c'est que chacun a son petit univers au final. Moi là, j'ai travaillé en couleur sur ces photos. Olivier a travaillé en noir et blanc. Et il a des images qui sont très graphiques, qui sont son univers quelque part à lui, qu'il a cherché, le développement d'images qu'il a cherché à... Mais tout ça fondé sur un socle commun, quoi, une passion commune. Notre passion pour les animaux, on l'a depuis qu'on a 10 ans. Donc le rouge que noir, le petit oiseau qui nichait dans le garage, etc. Donc on a fait chacun nos pas, ensemble, par moments, séparément à d'autres. Et après, c'est l'univers photographique de chacun qui va s'exprimer. Chacun doit trouver sa voix pour s'exprimer, quoi. Donc c'est bien qu'il y ait des univers aussi qui soient... propre.
Est-ce que vous pourriez me décrire une image de la série de votre frère ?
Il y a une image que je trouve très très remarquable dans sa série, c'est qu'il aime bien jouer sur le noir et blanc. Des fois le blanc prend le dessus, d'autres fois le noir prend le dessus. Et puis il y a une image étonnante où en fait l'un et l'autre sont d'une valeur équivalente. C'est un loup blanc qui est en premier plan avec un ours presque noir en arrière-plan. Et donc le jeu de l'optique, etc., fait qu'on a l'impression qu'ils sont côte à côte. Parce qu'il y a un écrasement des plans, ça c'est la photo. Et du coup, c'est très surprenant et très joli de voir deux espèces qui cohabitent, mais si proches comme ça, ensemble. Bon, j'aime beaucoup cette image, donc s'il faut en parler d'une, ce sera celle-là.
Merci. Et pour finir, est-ce que vous avez d'autres projets en ce moment ?
Quelques projets, oui. Déjà, je reviens d'un an de voyage autour du monde avec ma famille. On a fait des reportages et du coup, c'est l'atterrissage depuis 3 semaines. Je reprends quelques projets sur le milieu marin en mer Méditerranée avec la prise de vue d'apnée, sur le retour de la grande faune en Europe. J'aime bien voyager loin pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe à côté de chez moi. Ça permet d'avoir de la distance et des expériences et de... lever des barrières, parce que des fois quand on est chez soi on connaît bien l'environnement local, mais il y a des barrières locales dans la culture qui font que ça on ne pourra jamais le faire chez nous. Et des fois c'est intéressant de s'éloigner et de voir comment d'autres ont affronté une situation un peu similaire et essayer de chercher des réponses pour prendre un peu de recul. Et donc je m'intéresse au retour de la grande faune en France et en Europe, donc ça c'est un sujet en cours. Cohabiter avec ces mêmes animaux qu'on trouve au Tibet, l'ours, le loup, il y a des marmottes, il y a des vautours, il y a tout le cortège d'espèces qui est similaire avec quelques espèces en plus là-bas. Mais finalement, nous, on a beaucoup d'absents en France qu'on a oublié, l'ancêtre du taureau, de la vache, qui est l'auroch. Au Tibet, il y a la chance d'avoir l'ancêtre du yak sauvage encore. Et donc, c'est cette grande faune qui nous manque. Et qu'est-ce qu'elle manque à l'écosystème, à notre milieu, à notre quotidien ? Et quelles sont les espèces qu'on n'a pas éteintes, mais qui peuvent revenir facilement ? Le bison en ce moment, il y en a à nouveau au Portugal. Ça, c'est quand même génial. Il y en a en Pologne, en Allemagne, et pourquoi pas en France. Donc, c'est à s'intéresser à ces questions de qu'est-ce que ces animaux apportent au milieu et comment nous, on leur fait de la place dans notre esprit et dans notre cœur, quelque part. Avoir envie de vivre ensemble, d'avoir... leur refaire la place qu'ils avaient normalement. Et rien n'est impossible, je l'ai vu ailleurs. Donc c'est mon plus grand souhait de le voir ici.
Est-ce qu'on peut vous trouver sur Internet ?
Oui, certainement. On a un site de photographie avec mon frère, mes collègues. Donc c'est Regards du Vivant, notre association Regards du Vivant qui rassemble nos reportages.